Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 18, deuxième partie du thème « Le Fils de Dieu ». Il y aura encore une troisième partie, « Le Fils de Dieu ». La vie chrétienne tout entière doit être envisagée en fonction de l'adoption. Je répète, la vie chrétienne tout entière doit être envisagée en fonction de l'adoption. La réalité de notre état d'enfant de Dieu doit toujours être au premier plan, et cela en raison d'une part de la nature même de cette relation et d'autre part de l'enseignement du Seigneur sur la vie du disciple, enseignement qui repose tout entier sur le principe de la filiation. Il est donc clair que Jésus-Christ s'est toujours considéré comme le Fils de Dieu au sens de Fils unique de Dieu, et qu'il a également toujours considéré ses disciples comme les enfants de son Père céleste. Donc, nous sommes membres, comme lui, de la même famille divine. Alléluia. Dès le début de son ministère, nous l'entendons dire: quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Saint Marc, chapitre 3, verset 35. Deux évangélistes notent qu'après sa résurrection, il appela tous ses disciples ses frères. Comme elles, les femmes, allaient pour l'annoncer aux disciples, Jésus-Christ est venu à leur rencontre. Alors, Jésus-Christ leur dit: ne craignez pas, mais allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, car c'est là qu'ils me verront. Saint Marc, chapitre 28, verset 9. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Oui, vers mon Dieu qui est également votre Dieu. Et Marie de Magdala, elle alla annoncer aux disciples qui lui avait dit toutes ces choses. Saint Jean, chapitre 20, verset 17. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous assure que le Seigneur Jésus-Christ a de la considération pour tous ceux pour qui il est mort et dont il a fait ses disciples et ses frères et sœurs. Donc, vous, mes chers amis, vous y êtes inclus. Le Fils n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères » et encore « Me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés » Hébreux chapitre 2 verset 12. De même que notre Créateur est notre Père, de même notre Sauveur divin, notre Frère, quand nous devenons membres de la famille de Dieu. Donc, le fait de se savoir seul Fils de Dieu a conditionné, oui, cela a conditionné toute la vie terrestre de Jésus-Christ est celui de nous savoir, à notre tour, pouvons être fils et filles de Dieu, et cela, vous le savez, par adoption. Par adoption, oui. Cela doit également conditionner toute notre vie. C'est donc un point de son enseignement sur lequel Jésus-Christ insiste beaucoup et qu'il développe tout particulièrement dans son fameux sermon sur la montagne. Fréquemment appelé la charte du royaume de Dieu, ce merveilleux sermon pourrait être aussi considéré comme l'exposé du protocole de la famille royale. L'idée de filiation est en effet à la base de toutes les principales questions relatives à l'obéissance chrétienne qui sont traitées dans ce sermon. Il vaut donc la peine d'étudier en détail ce fait que les commentaires négligent généralement. Premièrement, c'est l'adoption qui, dans le sermon sur la montagne, motive la condition chrétienne. Je répète, c'est l'adoption qui, dans le sermon sur la montagne, motive la condition chrétienne. Il est donc courant de dire que ce sermon enseigne ce que doit être la conduite chrétienne, non pas en donnant un résumé complet de lois à observer ou détaillé à suivre à la lettre, mais des indications d'ordre général quant à l'esprit, les objectifs, les principes directeurs et les idéaux suivant lesquels le chrétien doit ou devrait gouverner sa vie. On souligne souvent qu'il s'agit là d'une éthique de liberté responsable tout à fait différente, oui, différente de l'enseignement tarifié, d'usage courant chez les juristes et chez les scribes juifs à l'époque de notre Seigneur. Mais ce dont on s'aperçoit moins souvent, c'est qu'il s'agit exactement du type d'enseignement moral que les parents cherchent constamment à donner à leurs enfants, un enseignement concret, imaginatif, dont les principes généraux se dégagent facilement d'exemples particuliers, un enseignement qui cherche toujours à faire apprécier et partager aux enfants les prises de position et la conception de la vie de leurs parents. Il ne faut donc pas chercher bien loin les raisons des qualités pédagogique de ce sermon. Il est en effet un enseignement à l'usage des enfants d'une famille qui est la famille de Dieu. Et cette orientation fondamentale, elle se traduit en trois grandes règles de conduite établies par notre Seigneur lui-même. La première de ces règles et l'imitation du Père. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Saint Matthieu 5, verset 48. Il faut qu'il y ait une certaine unité de conduite au sein d'une famille. En fait, ce que Jésus-Christ nous dit est « Soyez saints, car je suis saint ». Et il le dit dans une optique familiale. Excusez-moi, chers amis, je veux demander au Seigneur qui me donne la possibilité que ma voix ne flanche pas, parce qu'elle craque souvent déjà après 5 minutes, vu mon grand âge. Alors merci Seigneur, aide-moi d'arriver au bout. Il ne faut pas avoir peur de reconnaître qu'on est fragile. Chers amis, la seconde règle, c'est la recherche de la glorification du Père. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 16. C'est une bonne chose pour des enfants que d'être fiers de leur Père, de désirer montrer aux autres à quel point il est merveilleux de veiller à avoir en public une attitude qui lui fasse honneur. De même, dit Jésus-Christ, les chrétiens doivent, nous devons, nous conduire dans le monde de façon à provoquer la louange de notre Père céleste. Notre ou leur préoccupation constante doit être celle que Christ leur a appris à exprimer au commencement de toutes leurs prières. Rappelez-vous, tout le monde le sait, notre Père, que ton nom soit sanctifié. Saint Matthieu 6, verset 9. La troisième règle, c'est évidemment de plaire à notre Père céleste. Dans Saint Matthieu, chapitre 6, verset 1 à 18, Jésus-Christ insiste sur la nécessité de n'avoir d'autres idées en matière de religion que celle de plaire à Dieu. Il l'exprime en ces termes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Saint Matthieu, chapitre 6, verset 1. Une telle récompense n'aura bien sûr aucun caractère mercenaire. Il s'agira d'une récompense familiale, d'une marque d'amour particulière et inattendue, semblable à celle que les parents aiment à donner à leurs enfants lorsque ceux-ci ont fait un effort particulier pour leur plaire. Alors, si le Seigneur nous promet une récompense, selon Saint Matthieu, chapitre 6, verset 4, verset 6, ainsi que le verset 18, ce n'est pas pour nous inciter à acquérir un esprit mercenaire et calculateur, mais c'est tout simplement pour nous rappeler que notre Père céleste remarque et apprécie tout spécialement les efforts que nous faisons pour lui plaire. Deuxièmement, dans le sermon sur la montagne, c'est l'adoption qui dicte la prière chrétienne. Je répète, deuxièmement, dans le sermon sur la montagne, c'est l'adoption qui dicte la prière chrétienne. Voici donc comment vous devez prier, je l'ai déjà dit, notre Père, Saint Matthieu 6, verset 9. Jésus-Christ a toujours prié Dieu en l'appelant Père, Papa, Abba, en araméen. C'est donc un mot évocateur de l'intimité familiale. Et il a voulu que ses disciples fassent eux-mêmes. Jésus-Christ pouvait dire à son Père, « Tu m'exauces toujours. » Saint Jean, chapitre 11, verset 41. Et il a voulu que ses disciples sachent qu'en qualité d'enfants adoptifs de Dieu, il en serait de même pour eux. Ça vaut la peine de répéter. Jésus-Christ pouvait dire à son papa, « Tu m'exauces toujours ?» Saint Jean 11, 41. Et il a voulu que ses disciples puissent savoir que, en qualité d'enfants adoptifs de Dieu que nous sommes, il en serait de même pour eux, pour nous. Le Père est toujours accessible à ses enfants et il n'est jamais trop occupé pour écouter ce qu'ils ont à lui dire. Ceci constitue le fondement de la prière chrétienne et nous pouvons en tirer deux leçons. La première de ces leçons est qu'il ne faut pas voir dans la prière un moyen mécanique, une sorte de technique qui serait capable de faire pression sur quelqu'un qui autrement pourrait vous négliger. En priant, il est inutile de multiplier de vaines paroles. Si des fois mes prières, à la fin de mes études, sont un peu longues, eh bien, ce n'est pas nécessaire du tout. Un tiers de la longueur suffirait. Quelques mots qui viennent du plus profond de notre être. Les Français ont un mot qui dit « au fond de nos tripes ». Ça veut tout dire, n'est-ce pas? Alors donc, ne soyons pas comme les païens, qui eux s'imaginent qu'à force de paroles, ils sont certainement exaucés. Ce n'est pas dit. Donc, si j'ai une prière un peu longue à la fin de mes études, c'est inutile de copier cela. Quelques mots suffiront. Ne leur ressemblez pas, ça veut dire nous ne devons pas leur ressembler, n'est-ce pas? Car notre Père céleste, il paraît qu'il sait d'avance. Comme il sait tout, c'est difficile à croire qu'il sait d'avance de quoi nous avons besoin avant même que nous le lui demandons, selon Matthieu chapitre 6, verset 7. Évidemment, ça c'est Dieu, hein ? Bien sûr, c'est extraordinaire. La seconde de ces leçons est que la prière doit être libre et confiante. Nous ne devons pas hésiter à avoir le merveilleux toupet. Oui, vous savez que les enfants, ils ont parfois du toupet. Qui sait qu'il peut compter totalement sur leur amour? Nous savons que nous pouvons compter sur l'amour de notre Dieu, de notre Sauveur et Seigneur. Demandez et l'on vous donnera, quiconque demande reçoit. Si donc méchant comme vous l'êtes, et nous le sommes souvent, hélas, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses? Oh oui, à tous ceux qui le lui demandent. Saint Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 11. Mais cela ne veut pas dire, bien sûr, que notre Père Céleste répond toujours aux prières de ses enfants dans le sens où celles ou elles lui ont été adressées. Parfois, nous ne demandons pas ce qu'il faut. Je vais plaisanter là, hein, c'est ma manière des fois. J'ai lu l'autre jour qu'il y avait une voiture beaucoup plus performante encore que toutes les Ferrari du monde et même que toutes les Lamborghini, c'est la Bugatti. Bugatti qui fait du passé 420 à l'heure. Ah, une voiture comme ça laisse sur place toutes les Ferrari. Alors, il est utile de demander un engin pareil qui, paraît-il, coûte un petit million. Eh bien, c'est pas à la portée de tout le monde. Chers amis, Dieu se réserve la prérogative de donner de bonnes choses, de choses dont nous avons vraiment, vraiment besoin. Et si dans notre manque de sagesse, nous demandons des choses stupides, qui ne sont ni bonnes ni nécessaires, comme je viens de le mentionner, Dieu, comme tout parent qui se respecte, se réserve le droit de dire « Non, 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 pas cela. Ce ne serait pas bon pour toi. Prends plutôt ceci, car avec la Bugatti, tu vas certainement très rapidement te fracasser. À 420 à l'heure, je crois que certains contours, surtout dans des petits comme la Suisse et l'Autriche, des petits pays comme ça, montagneux, ça sera vite terminé. Alors, les bons parents ne feignent jamais d'ignorer ce que disent leurs enfants, pas plus qu'ils ne négligent leurs besoins, et il en va de même avec Dieu. Mais Dieu nous donne souvent ce que nous avons ou que nous aurions, surtout que nous aurions dû demander, plutôt que ce que nous avons demandé. Je crois que ça vaut la peine de répéter. Dieu nous donne souvent ce que nous aurions dû demander. Mais, moi le premier, je demande parfois tout faux, plutôt que ce que nous avons demandé, ce que je fais des fois. Voyez, donc, je ne fais pas partie de ceux qui ont une sagesse merveilleuse. L'apôtre Paul a demandé au Seigneur de lui retirer dans sa bienveillance, ou est-ce qu'on dit bienveillance, hein, je suis de langue allemande, son écharde dans la chair. Et dans sa bienveillance, le Seigneur lui a répondu en la lui laissant. Ah, c'est pas drôle du tout. Mais, par contre, on lui donna la force de vivre avec elle. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Donc, le Seigneur était le meilleur juge et a suggéré que l'apôtre Paul n'a reçu aucun exaucement parce que le Seigneur a répondu dans ce sens à sa prière qui serait absolument faux, mais il lui a répondu selon ce qui était le meilleur. Ceci donc éclaire énormément ce que l'on appelle parfois à tort le problème des prières restées absolument sans réponse, ou qui nous paraissent être sans réponse. Et troisièmement, l'adoption apparaît dans le serment sur la montagne comme le fondement de la vie par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre en recherchant le royaume de Dieu et sa justice. Faisons totalement confiance à Dieu pour tout ce qui concerne les besoins matériels. J'espère qu'il n'est pas nécessaire de préciser que l'on peut vivre par la foi sans abandonner son emploi. Certains y sont certes appelés, mais rarement. Mais tenter de le faire sans directive spécifique, croyez-moi, cela ne serait plus de la foi, mais cela serait de la témérité, ce qui n'est pas du tout la même chose. En fait, tout chrétien est appelé à vivre par la foi en ce sens qu'il doit faire la volonté de Dieu à tout prix et s'en remettre à lui quant aux conséquences. Mais nous sommes tous tentés, tôt ou tard, de faire passer notre situation et notre sécurité à vue humaine avant notre fidélité à Dieu. Même si nous résistons à cette tentation, nous sommes alors aussitôt tentés de nous tourmenter en pensant aux conséquences probables de notre décision, tout particulièrement lorsque, comme ce fut le cas pour les disciples auxquels s'adressait d'abord ce sermon, et pour beaucoup d'autres depuis, nous avons été obligés de renoncer pour suivre Jésus-Christ à la sécurité et à la richesse dont nous aurions pu jouir autrement. Pour aider au cours de leur vie de foi tous ceux qu'assaillent ainsi ce genre de tentation, Jésus-Christ rappelle la réalité de l'adoption. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, cher ami, ne t'inquiète pas trop pour ta vie, nous dit le Seigneur, de ce que tu vas manger, ni pour ton corps, de quoi tu seras vêtu. Saint Matthieu chapitre 6, verset 25. Mais, dira-t-on, voilà qui manque de réalisme. Comment puis-je m'empêcher de me faire du souci quand je dois faire face à ceci ou cela? J'ai des paiements qui sont en suspens. Oh là là, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Et c'est vrai. Sans l'aide de Dieu, ça ne va pas être drôle. Jésus-Christ répond alors: votre foi, elle est tout simplement trop petite. Avez-vous oublié que Dieu est votre papa? Regardez les oiseaux du ciel. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 26 de Matthieu 6. Donc, si Dieu prend soin des oiseaux dont il n'est pas le Père, n'est-il pas évident qu'il prendra soin de vous, dont il est le Père, car il est notre Père? Les versets 31, 32 et 33 de Saint Matthieu, chapitre 6, sont catégoriques. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que « qu'est-ce que je vais manger demain ?» Je n'ai pas grand-chose dans mon frigo. Que boirons-nous? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Bien sûr, je ne dis pas. Il y a des choses que je ne comprends pas parce que je ne sais pas tout, puisque je suis vraiment limité. Comment voulez-vous que je sache comment va faire cette maman qui a deux enfants dans un endroit d'Afrique où il n'y a pas une goutte d'eau? Ah, je n'ai pas la réponse à tout. Ça me fait souffrir, vous savez, ça ne m'est pas indifférent. Nous devons prier pour que le Seigneur vienne en aide à des personnes qui sont autrement plus mal lotis que nous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous pourrions avoir un accident, disait avec beaucoup d'angoisse une charmante petite fille avec des boucles blondes. Elle n'était donc pas d'un endroit d'Afrique, elle pourrait être plutôt un petit peu une petite Suédoise. Alors je dis encore une fois, parce que c'est un peu romantique, « Tu sais, papa, nous pourrions avoir un sacré accident », a dit la petite fille, alors que la voiture familiale se frayait un chemin dans une circulation intense et vraiment, comme on appelle des fois, on entend à la radio c'est, comment est-ce qu'ils appellent ça, bison rouge ou bison noir, quelque chose comme ça. Et qu'ils disent parfois qu'il y a des bouchons sur plus de 600 kilomètres. Oh là là, ça ne doit pas être drôle du tout. Alors, la maman lui dit, mais, ma chère fillette, fais confiance à papa, car il sait bien conduire. C'est ce que a répondu la maman de cette fillette aux boucles blondes, et je m'imagine aux yeux bleu clair. Oui, c'est un peu du romantisme à moi. Mais là, tout à coup, on voit, on imagine que l'enfant est totalement rassuré et qu'elle peut se détendre. Avez-vous une semblable? Avons-nous une semblable confiance dans notre Père Céleste? Moi, j'avoue que ça m'est arrivé et j'en ai honte. Oui, faut pas avoir peur d'avoir honte. Que j'ai parfois manqué dans le passé de confiance. Je ne suis pas fier du tout de ça. Voyez-vous, une telle confiance, elle est vitale, car elle est l'élément moteur d'une vie de foi qui, sans elle, n'est plus qu'une vie d'incrédulité, ou d'incrédulité au moins partiel. Donc, dans notre étude précédente, là, nous avons vu que la notion de propitiation avait une importance fondamentale en ce sens que le Nouveau Testament la plaçait au cœur même de l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ. Nous sommes ici face à quelque chose de semblable, car le mot « adoption », ah c'est beau ce mot, qui en grec signifie « établi en tant que fils, en tant que fille », apparaît 5 fois dans le Nouveau Testament, dont 3 pour désigner la relation qui unit désormais en Christ le chrétien à son Dieu. Romains chapitre 8, verset 15, Galatiens, je pense, chapitre 4, verset 5, et Éphésiens, chapitre 1, verset 5. Cependant, la notion même d'adoption est au cœur de tout l'enseignement néo-testamentaire relatif à la vie chrétienne. Ces deux notions, propitiation et adoption, sont évidemment liées. Les 4 évangiles ne sont pas seuls à présenter cette qualité de fils que Dieu nous a accordée comme devant orienter nos vies et nos pensées. Les épîtres le font également, et ce sont elles essentiellement qui vont nous permettre de démontrer que c'est bien l'adoption qui nous permet d'accéder dans 5 domaines à la connaissance la plus approfondie que le Nouveau Testament nous permet d'acquérir. Le premier domaine concerne la grandeur de l'amour de Dieu. Le second, la gloire de l'espérance chrétienne. Le troisième, le ministère du Saint-Esprit. Le quatrième, la signification et les raisons de ce que les puritains appelaient la sainteté évangélique. Le cinquième, enfin, le problème de l'assurance chrétienne. Premièrement donc, notre adoption nous révèle la grandeur de la grâce de Dieu. Je répète, notre adoption nous révèle la grandeur de la grâce de Dieu. Le Nouveau Testament nous rapporte deux événements qui nous donnent la mesure de l'amour de Dieu. Le premier, c'est la croix. Notez Romains, chapitre 5, verset 8, et la première épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 8 à 10. Le second, c'est le don de la filiation. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 1. Donc, de tous les dons de la grâce, l'adoption est le plus grand. Le pardon qui efface tout le passé est un très grand don, évidemment. Mais le chrétien peut tout de même chanter par exemple ceci. Pour me sauver, sacrifice adorable, le maître meurt pour l'esclave coupable. Le bon berger, pour sa brebis chérie, a donné sa vie. Eh bien, pour lui, ceci est une source intarissable d'émerveillement et de joie. Il sait, elle sait, qu'il ou elle est désormais à l'abri et accueilli favorablement par Dieu. Nous sommes accueillis très favorablement par notre Papa Céleste, cela dès maintenant et pour l'éternité. Avec grande assurance, nous pouvons continuer de chanter « Il a jeté mes péchés pour jamais » dans l'océan de sa miséricorde. Mon Sauveur m'aime et son Esprit m'accorde les avant-goûts de l'éternelle paix. Gloire à Dieu. Lorsque nous faisons nôtres les paroles de ces cantiques, notre esprit prend son essor. Certains de nos auditeurs en feront certainement l'expérience. Mais lorsque nous prenons conscience que Dieu nous a, pour ainsi dire, tirés du ruisseau et qu'il a fait de nous des fils dans sa propre maison, nous, des pécheurs miraculeusement pardonnés, nous qui étions coupables, ingrats, arrogants et même pervers, notre cœur éclate de joie et d'adoration. Et nous continuons de chanter « Ô que neige, la voix de l'ange et la harpe du séraphin » pour chanter comme eux ta louange, Seigneur, tu es mon Rédempteur divin, et pour célébrer nuit et jour les miracles de ton amour. Ordinairement, dans le monde antique, autrefois, seuls les gens fortunés avaient recours à l'adoption, car ceux qui étaient adoptés, nous l'avons dit précédemment, n'étaient en général pas des tout-petits enfants, comme c'est le cas aujourd'hui, mais c'étaient de jeunes adultes qui s'étaient révélés aptes et capables de perpétuer très dignement le nom de la famille. Mais Dieu, lui, il nous adopte uniquement par amour et non pas par intérêt. Non pas parce que notre caractère et notre conduite prouvent que nous sommes dignes de porter son nom, mais en dépit même de leur indignité, de notre et de ma et de mon indignité. Nous ne sommes pas dignes d'avoir une place dans la famille de Dieu. L'idée qu'il nous aime et nous élève en dignité, nous les pécheurs, comme il a élevé en dignité le Seigneur Jésus-Christ, semble ridicule et extravagant. Et c'est pourtant là ce qui signifie vraiment l'adoption et rien de moins. Oui, l'adoption, par sa nature même, est un acte de pure bonté. Lorsque vous adoptez un enfant, eh bien vous le faites, oui, vous le faites parce que vous avez choisi de le faire, et non pas parce que vous y êtes contraint. De même, Dieu nous adopte parce qu'il choisit de le faire et non pas parce qu'il est contraint. Il n'avait pas à faire quoi que ce soit pour nous, pécheurs, si ce n'est de nous punir comme nous le méritons. Et il aurait souvent dû me punir par le passé. J'en suis conscient. Mais il nous a tellement aimés, comme dans mon cas, il m'a tiré de la fosse, il nous a rachetés, il nous a pardonnés, et il nous a même adoptés. Il s'est donné lui-même à nous, comme le Père Céleste, notre Père divin. Mais sa grâce, elle ne s'arrête pas à ce premier acte, pas plus que l'amour des parents qui adoptent un enfant ne s'arrête à l'achèvement du processus légal qui fait de cet enfant le leur. Le statut de l'enfant étant réglé, et celui-ci ayant été reconnu comme membre de la famille, tout ne fait que commencer. Eh oui, la véritable tâche, elle reste encore à faire. Il faut maintenant établir des relations filiales entre l'enfant que vous avez adopté et vous-même, car c'est cela que vous désirez par-dessus tout. Vous allez donc vous attacher à gagner l'amour de l'enfant en lui témoignant vous-même votre amour. Vous allez chercher à éveiller son affection en lui manifestant la vôtre. Il en est de même avec Dieu. D'une manière ou d'une autre, tout au long de notre vie terrestre et de l'éternité ensuite, il nous manifestera constamment et toujours encore davantage son amour. Son amour qui suscitera l'accroissement continu de notre amour pour lui. Devant les fils adoptifs de Dieu s'ouvre donc une éternité d'amour. J'ai connu une famille dans laquelle le fils aîné avait été adopté à une époque où les parents pensaient ne jamais pouvoir avoir un enfant. Et quand, beaucoup plus tard, leur propre enfant est né, ils ont reporté toute leur affection sur cet enfant, donc, et non pas sur l'enfant adopté, qui, lui, fut manifestement complètement délaissé. Or, cette situation faisait beaucoup de peine à voir, et à juger par le regard de l'enfant adopté, elle était très pénible à vivre, car elle témoignait, bien sûr, d'un triste, très triste échec de la part des parents. Mais les choses ne se passent pas comme cela dans la famille de Dieu, gloire à Dieu. Il se peut qu'un jour, comme le fils prodigue de la parabole, nous ne puissions plus dire autre chose que « Papa, j'ai péché et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes mercenaires, car je mérite pas mieux. » Saint Luc, chapitre 15, verset 18. Mais Dieu, il nous accueillera néanmoins comme un fils véritable, comme une fille véritable, même si tu as été dans un certain endroit à Hambourg où tu n'avais pas d'autre solution que de vendre ton corps. Mais le Seigneur t'a sorti de là. Et donc, il a effacé ce passé. Oui, il nous aime d'un amour inébranlable, semblable à celui qu'il porte de toute éternité à son Fils unique et bien-aimé. Il n'y a pas plusieurs types d'affection dans la famille divine, car Dieu nous aime, il nous aime tous, exactement comme il aime Jésus-Christ. Vous pouvez le croire ou pas le croire, mais c'est vrai. On pourrait se croire dans un conte de fées. Pourquoi pas? Le roi, il se trouve sur le trône, il adopte pauvres enfants comme, peut-être pas vous, mais comme moi, abandonnés pour en faire des princes. Mais loué soit Dieu, il n'est nullement question de conte de fées, mais d'une réalité ferme et solide, fondée sur le roc, d'une grâce libre et souveraine. Alléluia. C'est cela l'adoption, rien de moins. Quoi d'étonnant à ce que Saint Jean se soit écrié « Voyez un peu quel amour le Père nous a témoigné ». Lorsque vous aurez vraiment compris ce que signifie l'adoption, de votre cœur va s'élever ce merveilleux cri. Mais ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout. Deuxièmement, notre adoption nous révèle la gloire de l'espérance chrétienne. Car le christianisme du Nouveau Testament est une religion d'espoir et non pas de défaite. Pourquoi être morose, mélancolique et avec la tête baissée presque jusque sur votre poitrine et de dire personne même « Oh là là, je suis bien à plaindre ». Mais regardons en avant. Pour le chrétien, le meilleur est toujours à venir, et non pas derrière moi. Derrière moi, c'est pas drôle. Non, non, si je regarde derrière moi dans ma jeunesse, j'en ai honte aujourd'hui. Mais comment pouvons-nous nous faire une idée de ce qui nous attend au bout du chemin? À nouveau, la doctrine de l'adoption va nous venir ici en aide, car elle nous enseigne d'abord à considérer notre espérance non pas comme une possibilité ou même une probabilité à, comment est-ce qu'il s'appelait, Einstein, mais comme une certitude pour laquelle nous avons des garanties, car il s'agit d'un héritage promis. Au début de l'ère chrétienne, les gens adoptaient un enfant pour s'assurer un héritage à qui ils pouvaient léguer leurs biens. Ça ne m'arrivera pas. De même, en nous adoptant, Dieu fait de nous ses héritiers, Ça, c'est beaucoup mieux. Et nous garantit ainsi l'héritage qu'il nous réserve, et qui, pourrions-nous dire, nous revient de droit. Nous sommes donc enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, oui, héritiers de Dieu, et co-héritiers de Jésus-Christ, selon Romains, chapitre 8, verset 16. Tu n'es donc plus esclave, bon, cher ami, ma chère amie, mais tu es maintenant fils et fille. Et si tu es fils ou une fille, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates chapitre 4, verset 7. Même, si tu as plus de 80 ans comme moi, les richesses de notre Père sont incommensurables et nous hériterons de tous ses biens. La doctrine de l'adoption nous apprend ensuite que cet héritage promis consiste à avoir part à la gloire de Christ. Nous serons rendus donc semblables en tout point à notre frère aîné. Le péché, la mort et la corruption de l'œuvre parfaite de Dieu, à la fois dans le domaine moral et spirituel, appartiendront maintenant au passé. Nous sommes maintenant quoi ? Qu'est-ce que nous sommes ? Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ afin d'être glorifiés avec lui, nous dit Romains chapitre 8, verset 17. Mes bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Premier épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 2. Cette ressemblance s'étendra tant à notre être physique qu'à notre esprit et à notre caractère. Maintenant, nous avons Romains, chapitre 8, verset 23. Là, on nous présente cette ressemblance physique qui nous est accordée comme faisant partie de notre adoption. Il utilise sans ambiguïté ce mot d'adoption pour parler de la transmission de cet héritage en vue duquel nous avons été adoptés. Nous qui avons les prémices de l'Esprit Saint, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Le jour béni de la résurrection concrétisera pour nous, pour toi, tout ce qui n'était encore qu'en germe dans notre statut de fils, de fille adoptive, car il nous permettra de jouir pleinement à notre tour de cette vie céleste qui est déjà celle de notre frère aîné. Saint Paul insiste sur la magnificence de cet événement et nous affirme que toute la création, bien qu'elle ne puisse s'exprimer, attend et désire pourtant avec ardeur la révélation des fils de Dieu, car la création aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption pour avoir part enfin à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, selon Romains chapitre 8, verset 19 à 21. Quelles que soient les autres implications de ce passage, et rappelons-nous qu'il n'a pas été écrit simplement pour satisfaire la curiosité naturelle des scientifiques. Il souligne très clairement la gloire extraordinaire que dans son plan d'amour, Dieu nous réserve. Oh oui, lorsque nous pensons à Jésus-Christ élevé dans la gloire, dans la plénitude de joie pour laquelle il a subi la croix, eh bien les chrétiens devraient y penser plus souvent. Nous devrions toujours nous souvenir que tout ce qui lui appartient sera un jour notre partage, car il s'agit de notre héritage tout autant que du sien. Nous faisons donc partie des nombreux fils et des filles que Dieu veut conduire à la gloire. Hébreux, chapitre 2, verset 10. Pour revenir à notre jeune fille à la Reeperbahn de Hambourg, eh bien, c'est une officière de l'armée du salut qui passait par là et elle lui a parlé du Sauveur, du Seigneur, qu'il voulait la sauver, pas qu'il pourrait éventuellement, un jour, quand elle aura, comme moi, bientôt 90 ans, non, tout de suite, qu'il pouvait la sauver, tout de suite. Et elle l'a cru, elle l'a accepté. Et aujourd'hui, elle fait partie de l'armée du salut de Hambourg. C'est autre chose que d'être à la Reeperbahn pour vendre son corps. Il tiendra le Seigneur les promesses, toutes les promesses qu'il nous a faites, et il achèvera en nous l'œuvre qu'il a commencé. Chers amis, ceci est donc la fin de notre deuxième partie concernant le Fils de Dieu. Chers amis, demain, si le Seigneur me le permet, nous aurons la troisième partie concernant le Fils de Dieu. Nous allons terminer par la prière. Mais avant, il arrive parfois, et ce n'est pas quelque chose que je mérite, oh non, oh là là, si vous saviez, je mérite vraiment rien du tout. Mais, voyez-vous, comme je suis maintenant, je n'ai aucun mérite, comme je suis maintenant jour et nuit, on peut dire, du matin au soir, dans les Saintes Écritures, et j'ai la chance, j'aime pas ce mot, non, j'ai le bonheur que quelqu'un me fait à manger, et donc j'ai pas besoin de le faire moi-même. Et cela me permet, le matin, de faire un CD comme celui d'aujourd'hui, et l'après-midi, après le repas de midi, de travailler sur la table de la cuisine pour étudier la prochaine étude. Pour le lendemain matin, de pouvoir le parler sur un CD. C'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup d'attention, de maîtrise, de concentration, de volonté. Bien sûr que j'ai une très chère amie. C'est une merveilleuse chrétienne. Et bien sûr, je suis de langue allemande, et je dis des fois des choses un peu à la manière des Allemands. Comme par exemple, des fois je lui dis « Arbeit macht frei ». Le travail rend libre. Bien sûr, là alors, elle n'est pas très copain avec ça. Mais pour moi, ce vilain slogan qui était d'un vilain monsieur qui a voulu faire la guerre au monde entier, c'est pas tout faux. Ça a été mal appliqué dans le sens de faire souffrir des gens qui n'avaient rien à faire avec ce slogan. Mais il y a du vrai. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, on trouve souvent des indications comme quoi qu'il nous faut de la discipline, davantage encore de discipline. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Croyez-vous qu'il n'a pas utilisé la discipline? Croyez-vous qu'il s'est laissé aller à somnoler sur un hamac entre deux palmiers au bord de la mer? Non, 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 non. Il traitait durement sa carcasse. Et moi qui dois une facture épouvantable au Seigneur, c'est pour cela que je m'adonne à un travail très dur pour mon grand âge, évidemment. C'est moins dur pour quelqu'un qui a 25 ans. Mais, bien sûr que vous avez le droit de dire, mais mon cher frère, on n'est pas sauvé par les œuvres. Allez vous reposer dans un gentil parc, somnoler cet après-midi et penser à rien d'autre. Faites le vide de vous-même et etc. Bon, c'est pas pour moi. Alors, en méditant, je reçois des fois des choses comme ce que je vais vous dire maintenant. Dans ce monde, vous aurez beaucoup d'injustices. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? On vous confiera tel ou tel emploi et l'on ne vous jugera propre à rien. Quelquefois la nature s'en affligera et ce sera beaucoup si vous le supportez en silence. C'est dans ces épreuves et une infinité d'autres semblables que d'ordinaire on reconnaît combien un vrai serviteur de Dieu sait se renoncer et se briser à tout. Il n'est presque rien qui vous fasse sentir autant le besoin de mourir à vous-même que de voir et de souffrir ce qui répugne à votre volonté, surtout lorsque on vous commande des choses inutiles ou déraisonnables, et parce que, assujetti à un supérieur, vous n'osez résister à son autorité. Il vous semble dur d'être en tout conduit par un autre et de n'agir jamais selon votre propre sens. Mais pensez, cher ami, aux fruits de ces travaux, à leur prompte fin, à leur récompense trop grande. Et loin de les porter avec douleur, vous y trouverez une puissante consolation, car pour avoir renoncé maintenant à quelques vaines convoitises, vous ferez éternellement votre volonté dans le ciel, car là, tous vos vœux seront accomplis, tous vos désirs seront satisfaits. Là, tous les biens s'offriront à vous sans que vous ayez à craindre de les perdre. Car là, votre volonté ne cessera jamais d'être unie à celle de Jésus-Christ. Vous ne souhaiterez rien hors de lui, oui, rien qui vous soit propre. Là, personne ne vous résistera, personne ne se plaindra de vous, personne ne vous suscitera des contrariétés ni d'obstacles, mais tout ce qui peut être désiré étant présent à la fois, votre âme, rassasiée pleinement, n'embrassera qu'à peine cette immense félicité. Car là, Jésus-Christ donnera la gloire pour les opprobres soufferts de joie pour les larmes. Et pour la dernière place, un trône dans son royaume éternel. Oui, là éclateront les fruits de l'obéissance. Le pardonné se réjouira de ses travaux et l'humble dépendance sera glorieuse couronnée. Maintenant donc, inclinez-vous humblement sous la main de tous et ne regardez point qui a dit ou ordonné cela. Mais si quelqu'un demande ou souhaite quelque chose de vous, qui que ce soit, ou votre supérieur, ou votre inférieur, ou votre égal, loin d'en être blessé, ayez soin de l'accomplir avec une affection sincère. Que l'on recherche ceci ou un autre cela, que celui-là se glorifie d'une chose, celui-ci d'une autre chose, et qu'il en reçoive 1000 louanges, mais vous ne mettez votre joie que dans le mépris de vous-même, dans sa sainte volonté et dans sa sainte gloire. Vous ne devez rien désirer sinon que soit par la vie, soit par la mort, que Dieu soit toujours pour l'éternité glorifié en vous. Et maintenant, chers amis, nous allons, si vous le voulez bien, terminer par la prière. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, toi, éternel notre Rédempteur, toi le Saint d'Israël, tu as dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'enseigne ce qui t'est utile et qui te guide par le chemin par lequel tu dois marcher. Oh, si tu avais été attentif à mes commandements, ta paix aurait été comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Mais il n'y a point de paix pour les méchants. Tu as été appelé prévaricateur dès ta naissance. Approchez-vous de moi et écoutez ceci. À cause de mon saint nom, je différerai ma colère et à cause de ma louange, je me retiendrai pour ne pas te retrancher. C'est pour l'amour de moi que je te fais, car comment mon nom serait-il profané? L'Éternel a racheté Jacob, son serviteur. Oui, l'Éternel a consolé son peuple, que nul ne dise « L'Éternel m'a délaissé et que le Seigneur m'a oublié ». La femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait et n'avoir pas pitié du fruit de ses entrailles? Mais quand les femmes les auraient oubliées, encore ne t'oublierai-je jamais. Moi, j'ai dit, je t'oublierai jamais. Ma justice est prête mon salut apparu, et mes bras jugeront les peuples. Élevez les yeux vers les cieux, et regardez en bas vers la terre, car les cieux s'évanouiront comme la fumée, et la terre vieillira comme un habit. Mais mon salut demeurera toujours, et ma justice ne sera point anéantie, et vous serez rachetés sans argent. Mon peuple connaîtra mon saint nom. Il connaîtra en ce jour-là que c'est moi qui aurai dit « Me voici ». L'Éternel a découvert le bras de sa sainteté devant les yeux, oui, devant les yeux de toutes les nations, et tous les bouts de la terre verront le salut de notre Dieu. Nations, louez donc tous l'Éternel, vous tous les peuples, célébrez-le, car sa bonté est grande envers nous, et la vérité de l'Éternel demeura toujours. Oui, louons l'Éternel. Amen. Amen. Et chers amis, à demain pour la suite de cette série. À bientôt, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, venons toujours près de lui, même avec 2-3 mots de prière suffiront. Venons toujours devant lui, devant notre Sauveur et Seigneur, car il nous aime, et c'est la moindre des choses de le remercier, de lui rendre gloire. À bientôt! Au revoir, mes très chers amis.